Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, nous allons parler de Santana, qui est un groupe de musiciens formé à San Francisco, en Californie, en 1966, par le guitariste américano-mexicain Carlos Santana. Le groupe a été formé en tant que Santana Blues Band, avec l'aide donc du guitariste Tom Fraser. Et les premiers membres du groupe étaient, outre Carlos Santana à la guitare et qui était leader du groupe, Marcus Mellon qui était à la percussion, Rod Harper à la batterie, Gus Rodriguez à la guitare basse et Greg Rowley qui assurait les voix principales ainsi que le jeu à l'orgue Hammond B3. La première audition du groupe ainsi constitué a eu lieu à la Avalon Ballroom à la fin de l'été 1967. Puis après cette audition, Chet Helms, qui était le promoteur de l'événement, a dit au groupe qu'il ne se produirait plus jamais dans la région de San Francisco. En effet, avec cette musique qui était un mélange de musique latine et de jazz fusion, rock fusion, Chet Helms a suggéré à Carlos de garder son travail de jour à TikTok's Drive-In dans la 3e rue. Ça donnait de l'ambiance, en tout cas, c'était un visionnaire le monsieur. Et à ce moment-là, Santana, qui commençait à peine à travailler sur son premier album, il se trouve que Marcus Mellon a dû quitter le groupe précipitamment quand il a été reconnu coupable d'homicide involontaire et a commencé à purger sa peine dans le comté de Marin, près de Saint-Quentin, prison d'État. Seulement voilà, le groupe, il se trouve qu'il a attiré l'attention du public avec sa performance de Soul Sacrifice, qui est une chanson de ce premier album, réalisée à Woodstock en 1969. Cette exposition a contribué à propulser leur premier album, aussi nommé Santana, aux meilleures places du Billboard. Alors certes, c'était plus l'équipe du départ, mais la musique, elle, ne changeait pas. Et en effet, la chance a voulu que les organisateurs de Woodstock demandent à Bill Graham, le célèbre producteur des salles Fillmore East à New York et Fillmore West à San Francisco, mais il lui demande de les aider à mettre en place la logistique et la planification du festival. Bill Graham a accepté de prêter son aide seulement si un nouveau groupe qu'il soutenait, un groupe inconnu en dehors de la sphère de San Francisco, appelé Santana, si ce groupe donc était ajouté au projet de l'affiche. Et Santana fut inclus à la liste des artistes du festival de Woodstock. Le groupe a ainsi commencé à enregistrer son premier album, Santana, en mai 1969, et l'a terminé en un mois. Avec son hybridation de rythmes afro-cubains et de hard rock, la formation sera l'une des sensations du festival et acquérera immédiatement une réputation d'un acier trempé, avant même que le moindre disque ne soit publié. Du coup, très attendu, celui-ci ne décevra pas. Santana est ainsi le premier album studio du groupe et il est sorti seulement fin août 1969, soit après le festival, ce qui était déjà très étonnant. Et plus de la moitié de l'album est composée de musique instrumentale, enregistrée par ce qui était à l'origine un groupe de jam rythmé. Et sur la suggestion du manager, donc Bill Graham, le groupe a pris l'habitude d'écrire des chansons plus conventionnelles pour avoir plus d'impact sur les auditeurs. Mais ils ont réussi surtout à laisser la place à l'improvisation dans leur musique. Et le ton est donné d'emblée avec Waiting, très caractéristique de la marque de fabrique qu'a imposé Carlos le Mexicain dès la création du groupe. We'll be right back. C'était Waiting par le groupe Santana sur OxyWeb Radio. Le premier album a culminé très rapidement au 4e rang du Billboard 200, qui était le hit parade américain et qui était donc la preuve de ce succès. Mais en tant que single, c'est le cha-cha, en tout cas c'est tel qu'il était enregistré au départ, c'est-à-dire le morceau suivant, Evil Ways, qui devint et qui entra surtout dans le top 10, dominé par l'orgue Hammond de Greg Rowley, et ponctué, c'est vrai aussi, par un solo très accrocheur de Carlos. Et c'est ainsi que sera popularisé Santana. Evil Ways est une chanson dont les paroles parlent d'une fille vindicative qui aime à rendre jaloux son petit ami avec un autre de ses amis. Sorti un single à la fin de 1969, c'est en fait le premier succès du groupe à entrer dans le top 10 aux États-Unis, en atteignant en fait la 9e place du Billboard Hot 100, ce qui est encore plus démonstratif de son succès. Ainsi, Evil Ways est devenu un des 10 meilleurs singles des États-Unis cette année-là. À l'origine, cette composition a été enregistrée par Willie Bobo, qui l'a inclus dans son album solo Bobo Movement en 1967. Et au départ, c'est Bill Graham, toujours le directeur des salles Fillmore, qui avait convaincu Santana d'en faire une reprise pour avoir un peu plus grand impact sur les ventes de l'album. Greg Rowley interprète les voix principales et joue un solo d'orgue Hammond de sa section du milieu. La coda, comme on dit, partie finale du solo, à double temps, comprend aussi un solo de guitare interprété par Carlos Santana, qui assure également les vocaux, en tout cas les chœurs. Et plus tard, certaines stations de radio joueront des extraits de la chanson, coupant des parties de l'introduction, qui était joué à l'orgue et toujours en instrumental, et aussi la partie improvisation de guitare dans le final que j'évoquais à l'instant. Non, vraiment, ce morceau, décidément, fera date dans la carrière de Santana.
Baby.
Evil Ways par Santana sur OxyWeb Radio. Aux côtés de Carlos Santana, il faut souligner la présence de Greg Alan Reilly. Né en juin 1947 à Seattle, Washington, état de Washington, même état d'ailleurs que Jimi Hendrix. Au départ, il s'agit d'un chanteur et claviériste américain. Reilly, en effet, a été chanteur dans divers groupes comme dans Santana, puis plus tard dans Journey et Abraxas Pool, qu'il a d'ailleurs cofondé. Il a également dirigé le groupe de rock The Storm et joue encore actuellement avec son groupe Greg Reilly Band aux États-Unis. Greg Reilly a été intronisé 2 fois au Hall of Fame du rock'n'roll. C'est un véritable temple de la renommée aux États-Unis, ça vous le savez. Et il a été intronisé à la fois comme membre de Santana en 1998 et comme membre du groupe Journey en 2017. Avant Santana, Greg Reilly a joué avec un groupe appelé William Penn et ses Pauls, tout en fréquentant que Ballet High School à Palo Alto en Californie vers 1965. Et un an après avoir terminé ses études secondaires en 1965, donc, Greg Reilly rejoint Carlos Santana et ses camarades pour former le Santana Blues Band, plus tard raccourci tout simplement en Santana. Et en tant que membre cofondateur de Santana, Greg Reilly a fait partie de la première vague de succès du groupe et notamment bien sûr l'apparition à Woodstock en 1969. Et il a joué des rôles assez importants dans l'élaboration des premiers albums du groupe. Il est peut-être mieux connu pour être le premier chanteur principal avec sa voix apparaissant sur des chansons bien connues de Santana, comme Black Magic Woman, Oye Como Va, No One to Depend On et bien sûr Evil Ways que vient d'écouter. Il est également devenu célèbre pour son talent à l'orgue, Hammond, avec des solos sur de nombreux hits mentionnés ci-dessus. Mais les différences persistantes qui sont apparues petit à petit avec Carlos Santana concernant la direction musicale du groupe ont conduit Greg Reilly à partir à la fin de 1971. Écoutons Shades of Time, qui est un excellent exemple du rôle joué par Greg Reilly, notamment au chant. Searching c'était Shade of Time par Santana sur OxyWeb Radio. Après avoir débuté sa carrière avec des groupes baptisés The Santana Brothers et The Santana Blues Band, Carlos Santana, alias Carlos Alberto Santana Barragán, né en 1947 au Mexique, mexicain d'origine donc, et fils de musicien, a connu une première gloire avec ce premier album. Nous sommes donc en 1969 et sur la scène de l'Area Bay de San Francisco, son terrain d'expression musicale favori. Révélé par Woodstock cette même année, influencé par la musique afro-cubaine, le rhythm and blues et le rock, Santana, dit aussi Devadip, ce qui signifie l'œil de Dieu, fait une entrée fracassante dans le milieu du rock avec cet album, bien dans le ton de la fin des années 60 et aux surprenantes et percutantes touches latino. Guitariste au style unique, aussi fluide qu'il peut être acéré, Carlos Santana, dans cet album, rivalise avec les percussionnistes centra-américains Michael Carabello et Chepito José Arias, sans négliger que la formation reste articulée autour de Greg Rowley au clavier, dont je viens de parler, mais aussi de David Brown à la basse et Michael Shreve à la batterie. Ces deux derniers ont à peine 20 ans à l'époque et révèlent déjà une immense pointure révélée lors de la prestation fabuleuse à Woodstock, mais on y reviendra. Je vous propose d'écouter l'instrumental Savor, où en particulier se révèle un super solo de timbale de Chepito, qui enchaîne en fait sur un rythme endiablé cette suite de morceaux. J'avoue que j'ai supprimé la partie finale, qui est longue et donne un aspect étrange et inutile de mon point de vue à cette chanson, avant tout fameuse pour son rythme du début. C'est bon. We'll be right back. c'était Saver par Santana sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle Jingo Loba, plus connue tout simplement sous le nom de Jingo. C'est une chanson du percussionniste nigérian Babatunde Olatunji et a été présentée sur son premier album Drums of Passion en 1959. Rétrospectivement, elle apparaît comme un des points majeurs de l'album de Santana. Pourtant, à l'époque, c'est Evil Ways et Soul Sacrifice qui font le buzz, comme on ne le disait pas encore. Dans son autobiographie, Olatunji a révélé que c'était la seule chanson de son album dont il ait revendiqué la propriété formelle, signifiant en fait que c'était la seule chanson pour laquelle il a jamais reçu des royalties. La chanson, dont Jingo, présentait des rythmes et des chants africains dérivés, avec l'orchestration swooping, ce qu'on peut aussi appeler de véritables descentes de notes en piqué. Le disc jockey américain Francis Grasso a décrit la chanson comme rythmiquement sensuelle, et ça, faut l'avouer, c'est vrai. Elle a donc été reprise par Santana sur leur album pour utiliser à plein son rythme et lui mettre la touche du groupe avec sa guitare sensuelle, son orgue chaleureux et ses percussions diaboliques. Les critiques dirent à l'époque que cette version n'était pas pourtant aussi populaire qu'avait pu l'être l'original, mais je pense que c'est des jaloux. Par ailleurs, un journaliste espagnol, José Miguel López, déclara que lorsque Santana a publié Jingo en tant que single, le morceau a d'abord été crédité à Carlos Santana. Seulement, des années plus tard, les crédits ont été corrigés et enfin, Olatunji a pu toucher ses royalties. En France, il faut le savoir, cette chanson a été reprise par Serge Gainsbourg sur le titre Marabout et sans crédit non plus accordé à Olatunji sur son LP Gainsbourg Percussions en 1964. Comme quoi. Enfin, la chanson a également été plusieurs fois reprise durant les années 70, mais sans connaître le succès qu'elle a pu avoir avec Santana. Même durant les années 80, elle est ressortie plusieurs fois dans les spots publicitaires. C'était Jingo Loba par Santana sur OxyWeb Radio. Dans le groupe Santana, qui a connu le succès, se trouve donc Davy Brown, qui assurait le rôle de bassiste. Né le 15 février 1950, il faut savoir qu'il est décédé en septembre 2000. Il fut le premier bassiste du groupe de 1966 à 1971. Il est parti, puis est revenu en 1974 jusqu'en 1976. Il a grandi à Daly City, en Californie. Davy Brown a joué avec Santana à Woodstock, évidemment, et sur les trois premiers albums studio du groupe. Avant de partir, après le concert de fermeture de la salle du Fillmore West à San Francisco, le 4 juillet 1971. Et en 1974, il a rejoint l'album Barboletta de Santana et est revenu chez Santana également pour jouer sur l'album Amigos avant de repartir au printemps de 1976 et cette fois définitivement. Il était, il faut le dire, assez instable de ce point de vue. Il faut savoir aussi que lors des jam sessions du mardi, qui se déroulaient alors au Fillmore West à la fin des années 60 et au début des années 70, Davy Brown se chargeait souvent de réaliser des sélections de musiciens pour jouer dans les sessions organisées le mardi soir. Et parfois même, il y participait également. Les mardis faisaient toujours le plein en raison des faibles droits d'entrée qui étaient fixés à 1$. Il n'y avait pas de place assise et l'éclairage était très faible. Néanmoins, si David avait besoin de quelqu'un pour jouer d'un instrument particulier, il allait dans la foule et la première personne qui se déclarait capable de jouer était invitée à monter sur scène, à son risque et péril, vu le monde présent. En 1998, David Brown a été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame en tant que membre de Santana. Il est malheureusement mort le 4 septembre 2000 d'une insuffisance hépatique et rénale. Dans sa carrière, il a également joué avec le groupe de Marc Castro au début des années 90. Marc Castro, il faut le savoir, était un guitariste leader assez renommé aux États-Unis et qui a joué notamment avec Inner Circle. Écoutons le morceau suivant, un morceau de jazz latino du nom de Treat. Écoutez la prestation de Greg Rolie au piano et celle de David Brown à la basse. Thank you. C'était Treat par Santana sur OxyWeb Radio. Et nous voilà arrivés au morceau Soul Sacrifice, qui est pour moi le morceau déclencheur de toute l'aventure Santana. Au départ, c'est un instrumental écrit, réalisé par le groupe, et c'est le véritable point culminant du spectacle sur scène. Par exemple, il fut identifié comme l'un des faits saillants du festival et également du film documentaire réalisé sur Woodstock. Soul Sacrifice est resté fameux pour ses passages de guitare étendus, joués par Carlos Santana, et la section de percussion avec un solo notamment du batteur Michael Tribe. C'est la dernière piste de l'album studio, ainsi que sur plusieurs albums live que réalisera Santana par la suite, voire même de compilation. Carlos Santana a rappelé que le groupe l'avait écrit quand le bassiste David Brown les avait rejoints. Ce morceau a été écrit comme un exemple parfait de amalgame de vieux rythmes de guacango, qui était un rythme, on va dire, sud-américain, et de licks ou de soli, en quelque sorte, strictement américain ou nord-américain. Et ça incluait l'interaction entre Santana et finalement Greg Rowley. C'était deux personnalités distinctes, mais qui sur scène réalisaient sur la synthèse et en particulier aussi en studio. Et tout ça martelé sous les coups de congas, qui sont des instruments cubains, espèce de grand tam-tam, et de Mike Carabello et de José Chepito Arias. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, les tambours sinueux de Mac Shreve, ainsi que la basse de David Brown, mais j'en ai déjà parlé. Tout le monde, dans ce morceau, eut son moment de gloire. Et je voudrais néanmoins mettre un coup de projecteur sur Michael Shreve, qui est né donc en juillet 1949 à San Francisco. C'est un batteur percussionniste, et plus tard, il deviendra un compositeur de musique électronique assez réputé. C'est le batteur originel du groupe, et il a participé à ses 8 premiers albums. Il faut savoir qu'il entre dans la légende du rock'n'roll justement à l'âge de 20 ans au festival de Woodstock. Son solo de batterie sur Soul Sacrifice restera dans les annales. En fait, il y révèle toute la puissance de son jeune talent et contribuera fortement à la renommée du groupe avec la diffusion mondiale du film Woodstock. Il a joué dans plusieurs albums de groupes différents, dont les Rolling Stones, Emotional Rescue, Tatty You, ou l'album Jefferson Airplane Loves You, en 82 avec Jefferson Airplane justement, ou bien encore Miserere de Zucchero. Michael Shreve est souvent présenté à tort comme le plus jeune musicien du festival, mais en fait c'est David Brown, le bassiste, qui est né en février 1950 et donc de 7 mois son cadet. Depuis le temps que je vous parle de Woodstock, voici la version live de Soul Sacrifice jouée lors du festival. Accrochez-vous à quelque chose de solide. C'était donc Santana à Woodstock qui interprétait Soul Sacrifice sur OxyWeb Radio. Avec le grand et explosif Soul Sacrifice, énorme et transcendant, qui frise l'état de grâce, l'album se révèle plein de spontanéité, d'inventivité. Il est accrocheur, frénétique, entraînant, sans temps mort et sans déchet. Ce disque est avant tout celui d'un groupe de musiciens sur la même longueur d'onde, seulement celui d'un guitar hero. Il a donc la force et la cohésion d'un travail d'équipe. Santana, l'album, définit en fait un nouveau genre musical, ce qu'on appellera le latino rock. La créativité et les expériences en vogue dans le courant des années 60 ont vraiment déchiffré le terrain du rock, comme on peut en juger avec encore cette nouveauté, finalement cette merveille que se révèle être Santana. Santana, alors un groupe largement inconnu, il faut le savoir, fut le seul groupe à jouer à Woodstock sans avoir sorti d'album auparavant. C'était sans précédent. Santana est passé de l'inconnu à la gloire mondiale presque du jour au lendemain. Dans plusieurs entretiens, Santana a rappelé avoir éprouvé les effets hallucinogènes pendant tout le show à Woodstock. Mais il les a contenus pour qu'au final, au moment où nous sommes arrivés à Soul Sacrifice, poursuit-il, je semblais revenir d'un voyage mystique assez intense et finalement je sentais que nous avions branché beaucoup de cœurs à Woodstock. La suite lui donnera raison. Aidé par la publicité générée par leur performance de Woodstock, le premier album de Santana fut aussitôt un succès. Dans les deux années suivantes, le premier album fut suivi d'Abraxas et puis de Santana 3. Les changements de personnel devinrent assez courants. L'implication croissante de Carlos Santana avec le gourou Sri Chinmoy a amené le groupe dans une musique plus ésotérique, une sorte de jazz fusion, bien qu'il n'ait jamais perdu son influence latine. En revanche, il a un peu perdu son public. En 2013, Carlos a organisé une réunion du groupe d'origine, excepté évidemment David Brown, décédé, pour réaliser un nouvel album appelé Santana 4, qui a été diffusé en avril 2016. Je ne vous cache pas que je l'ai beaucoup apprécié. Ils ont reçu pour cet album, d'ailleurs, de nombreux Grammy Awards. Voilà, ça en est terminé pour ce premier album de Santana, et la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est d'aller vers les sources du blues avec un dénommé Muddy Waters et son album qui sort en fin 69, et comme ça on conclura l'année 69, avec l'album Feathers and Sons. Et je vous raconterai l'histoire de cet album assez étonnant. Mais d'ici là, roulez blues!